et Carolina Sada-Guzmán pour m'avoir convié pour parler de ce sujet qui est au cœur de mes recherches. Et je remercie aussi Victoria, que je vois là dans le chat, d'avoir bien voulu échanger avec moi. Je suis désolé de cette contrainte. Alors, le projet chilien qui est en débat aujourd'hui consacrait en effet une notion nouvelle, celle de bien commun environnemental, et c'est à mon sens la première fois qu'une telle notion tente une percée dans le monde du droit. Et c'est la seconde fois, à ma connaissance encore, qu'une notion plus globale de bien commun tente de connaître une tentative de consécration juridique, et à chaque fois, ce sont des échecs. Alors, avec vous ici, je vais étudier article après article, ce qui va donner un côté un peu 19e enseignement du 19e siècle à mon exposé, mais article après article, cette disposition, à savoir l'article 134, c'est la raison pour laquelle j'ai fait un PowerPoint dans lequel j'ai traduit les principales dispositions. Si d'ailleurs vous avez des commentaires sur ma traduction, n'hésitez pas, évidemment. Alors, le premier alinéa nous dit « Les biens communs naturels sont des éléments ou des composants de la nature sur lesquels l'État a un devoir spécial de garde afin de garantir les droits de la nature et l'intérêt des générations actuelles et futures. » Alors, ce premier alinéa commence fort à mon sens. Comme je l'avais déjà relevé dans un bref commentaire que j'avais rédigé sur la personnalité juridique attribuée à Marmenor en Espagne, il est très intéressant, je trouve, de voir la garde, l'idée de garde, faire un retour en droit pour réorganiser les rapports de l'État au bien commun. Dans le monde de common law, en revanche, cette idée est toujours bien ancrée, que l'État n'est qu'un trustee des biens du domaine public. C'est la règle un petit peu partout, et c'est même consacré dans plusieurs constitutions de certains États américains. Cette règle, qui est issue du common law, a perdu de son autorité en Angleterre. En tout cas, elle n'est plus utilisée, et la notion de trust n'a plus de portée juridique en contentieux, même si elle est toujours utilisée pour désigner certains services publics. On pense par exemple au National Trust ou au BBC Trust. C'est bien l'idée pour un service public aussi, comme pour un bien, que la personne publique ou privée d'ailleurs n'est que le gardien de ce service ou de ce bien. On retrouve la notion de trust, de garde, aux États-Unis, et c'est dans c'est l'activisme environnemental en réalité qui lui a redonné ses lettres de noblesse dans les années 60, avec un article très important de Joseph Sachs, mais aussi dans le livre qui est désormais très connu en France de Christopher Stone, Do Trees Have Standing? On retrouve cette notion au Canada, en Inde, au Pakistan, aux Philippines, en Ouganda, au Kenya, en Afrique du Sud, entre autres, et on la retrouve en Espagne dans le projet Marmenor. Avec la garde ou avec le trust, l'idée c'est bien que le gardien n'est pas le propriétaire, mais simplement le gardien pour un bénéficiaire, pour que le bénéficiaire puisse entièrement jouir des utilités du bien. Alors, on sait qu'en France, cette façon de considérer le rapport de l'État au domaine public était présent en doctrine au XIXe siècle et a laissé progressivement la place à l'idée de propriété du domaine. Et c'est à partir des années 80, la décision de privatisation et dans le code général, que l'idée de propriété a finalement gagné. Or, il me semble qu'on retrouve ici on renoue ici avec une tradition très importante. La garde, dans cet article, elle est fonctionnalisée, puisqu'il s'agit de garantir les droits de la nature et l'intérêt des générations actuelles et futures. On voit l'écriture très restrictive de cet article et des fonctions de la garde, finalement. Il me semble que certains problèmes peuvent émerger. D'une part, quid des autres intérêts? Ce n'est pas qu'un problème chilien, d'ailleurs, hein. La multiplication des objectifs dans la gestion du domaine en France, puisque même le droit de la concurrence a fait son entrée depuis l'arrêt société EDA, est un problème, puisque finalement, l'administration fait ce qu'elle veut. On peut cependant imaginer, finalement, que cette rédaction engendre une hiérarchisation des objectifs de la gestion de ces biens avec des objectifs, finalement, d'intérêt supérieur. On retrouve d'ailleurs cette idée de hiérarchisation des intérêts très présente en droit administratif italien. Mais je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Et par ailleurs, un problème évidemment apparaît, c'est que c'est l'État qui doit énoncer ses intérêts. Et donc, ça n'élimine pas le problème de capture possible de ses intérêts par l'État. Et enfin, si l'État est gardien de la hiérarchisation de ses intérêts, il est difficile en réalité, c'est le début de ma conclusion, c'est qu'il est difficile en réalité de parler véritablement de commun. L'article en question, 134, n'institue pas de communauté. Et c'est peut-être son défaut essentiel. On n'a donc pas de définition du bien commun naturel. On le voit bien dans ce premier, ce numéro 1. C'est pourquoi l'article 2 procède par énumération. Alors, je vous le mets, voilà. L'article 2 nous dit « La mer territoriale et ses fonds marins, les plages, les eaux, les glaciers et les zones humides sont des biens communs naturels. » Les champs géothermiques, l'air et l'atmosphère, les hautes montagnes, les zones protégées et les forêts indigènes, le sous-sol et tout élément que la Constitution et la loi aura qualifié ainsi. Donc une énumération et une énumération ouverte, puisque la Constitution ou la loi peuvent continuer cette liste. On a donc une énumération et pas une définition, qui est probablement la faiblesse de la notion telle qu'elle est définie ici. On a une énumération de biens, de choses, au statut juridique très différent. Et finalement, c'est ça, me semble-t-il, l'intérêt du recours à cette nouvelle notion, qui est la notion de commun, non pas au sens strumien, mais pour trouver un terme qui transcende public et privé. La notion de bien commun recouvre largement des biens, on le voit, qui en France feraient partie du domaine public. Et évidemment, je mentionnerai que ça, c'est une avancée notable pour l'eau. Je vous ai mis avec un écart l'article 19, numéro 24 de la Constitution chilienne actuelle, tel qu'il a été rédigé avec la dictature, qui reconnaît la propriété privée de l'eau. Cet article dispose les droits des individus sur les eaux, reconnus ou constitués conformément à la loi, confèrent à leur détenteur la propriété de celle-ci. Donc il y a bien une idée de propriété sur l'eau. Et le numéro 3, le troisième alinéa, parmi ces biens, l'eau dans tous ses états, l'air, la mer territoriale et les plages, etc., sont inappropriables. Donc on voit bien là l'aspect de circonstance de cette réforme constitutionnelle. C'est une réponse directe à la crise de l'eau que connaît le Chili depuis un certain temps. Je vous l'ai dit, la Constitution de 1980 fait de l'eau une propriété privée. Et le gouvernement Pinochet, dès 1981, a organisé par la loi la vente et la privatisation de l'eau à la manière d'une bourse. Hein? Et cette vente de droits sur l'eau a été un des principaux facteurs qui a conduit à la baisse du niveau d'eau dans beaucoup de régions. C'est le même scénario qu'on connaît avec nos sources, hein, à Vittel, Volvic, Épar, etc. Dont les nappes phréatiques sont aujourd'hui dans un état critique. En 2020, près de 500 000 Chiliens dépendaient de camions d'eau pour leur approvisionnement et des dizaines de milliers d'animaux sont morts de la sécheresse. En 2022, il y a eu un plan de rationnement de l'eau à 4 niveaux. Je ne vous le détaille pas, mais ce qui montre l'intensité de la crise et la raison pour laquelle finalement ce changement dans l'état de propriété, dans l'idée de propriété de l'eau, est aussi une réponse à la crise actuelle. L'alinéa 4, à présent. Concerne les biens communs inappropriables. Et là, on commence à avoir des éléments de régime intéressants, de régime et de gouvernance. Même si finalement, les éléments de gouvernance sont assez pauvres, mais on est à un niveau constitutionnel, ce qui peut expliquer cela. Dans le cas des biens communs naturels inappropriables, l'État doit les préserver, les conserver et le cas échéant, les restaurer. Il doit également les administrer de manière démocratique, solidaire, participative et équitable. Ces biens communs naturels qui sont des propriétés. Le devoir de garde de l'État implique le pouvoir de réglementer leur utilisation et leur jouissance aux fins énoncées dans cet article. Donc, il y a énormément de choses dans cet article, qui est un article qui nous précise ici et pour la première fois le régime. On a deux branches. On a des biens communs naturels inappropriables publics et les biens propriétés privées. Donc, on a un régime on a un double régime, pardon. Dans le premier cas, c'est-à-dire les biens communs naturels inappropriables qui relèvent de l'État, on a trois obligations: préservation, conservation et restauration. Et on a là des éléments de gouvernance. Le premier élément qui me semble très important et qui me semblerait susceptible d'être importé pour une réflexion française, c'est le lien entre bien commun et démocratie et participation, qui est d'ailleurs un lien que l'un des fondateurs de la théorie des biens communs en Italie, Alberto Lucarelli, a bien fait dans plusieurs articles, notamment la démocratie des biens communs. L'idée de bien commun, si elle doit avoir un sens, et c'est le sens qu'elle prend avec le mouvement italien du début des années 2000-2010, avec la question de la privatisation de l'eau, justement, c'est de faire du peuple, des citoyens, un tiers entre l'État et les biens naturels comme l'eau. L'introduction de la démocratie est censée, justement, desserrer ce lien de propriété entre l'État et ses biens. Et c'est la raison pour laquelle la garde, finalement, est importante, puisqu'elle permet de desserrer l'étau que l'État fait peser sur les biens qu'il gère. Et c'est la raison pour laquelle, dans le rapport sur l'échelle de communalité, dans un groupe autour de Judith Rochefeld, Gilles Martin et Marie Cornu, nous avions proposé le retour de la garde et des éléments de démocratie participative dans la gestion du domaine public. Et on signalera aussi l'idée de solidarité et de caractère équitable qui rentre dans la gestion de ces biens, qui fait un lien entre l'écologie et le social. D'ailleurs, il y a de plus en plus ces... comment s'appelle-t-il cet historien des idées passionnant qui fait, qui essaye dans La Cité écologique, essaye de faire un lien justement entre le solidarisme du 19e siècle, le mouvement solidariste et la crise écologique. Et on voit bien ici comme ce lien aussi est fait dans cet article 4, c'est-à-dire voilà, cette solidarité et évidemment l'attention que l'on doit à la nature. Et deuxième branche, les biens communs naturels, propriété privée, mais qui impliquent uniquement un pouvoir de réglementation. Alors c'est déjà important, hein, c'est quelque chose qui a été acquis, évidemment en France, aux États-Unis, par la jurisprudence, depuis longtemps, même si en France la fonction sociale de la propriété n'est toujours pas acceptée ou en tout cas écrite noir sur blanc dans un quelconque document clair, à la différence des constitutions allemandes, italiennes ou espagnoles ou de quantité d'États d'Amérique latine. Donc ici, au Chili, ce devoir de garde permet un pouvoir de réglementation. Mais là, ça semble timide. Pourquoi ne pas imposer les mêmes obligations à l'État et aux personnes privées vis-à-vis des choses de la nature? Ou pourquoi ne pas imaginer des droits horizontaux, finalement? Pourquoi ne pas dire aussi que les personnes privées sont... doivent préserver, conserver et restaurer les biens communs naturels dont elles ont la charge et qu'elles exploitent, évidemment, puisqu'il s'agit de ça. Donc peut-être dans la deuxième branche, une proposition qui est en retrait de ce qui devrait être nécessaire. Cinquième alinéa qui me semble aussi très intéressant, et qui appelle, me semble-t-il, plein de réflexions sur ce que pourrait être un régime de l'autorisation administrative écologique pour le futur en France, puisque cet article 5, enfin cet alinéa 5, nous dit « L'État peut accorder des autorisations administratives pour l'utilisation de biens communs naturels inappropriés, conformément à la loi, à titre temporaire, etc., avec des obligations de conservation spécifiques, justifié par l'intérêt public, la protection de la nature et le bénéfice collectif. » Alors ça me semble une disposition qui pourrait être très intéressante pour la France. Parce que cet article, me semble-t-il, va dans le sens d'une écologisation de l'autorisation administrative. Certainement, on aurait pu aller plus loin en disant que le titulaire des autorisations ne peut pas épuiser la ressource, hein, même si ça semble implicite, hein, puisque l'ensemble des objectifs, mais ces objectifs, dans la rédaction, ils incombent à l'État qui rédige l'autorisation et non pas au titulaire. Voilà. Mais cet article, je trouve, est très important et très inspirant pour ce que pourrait être une autorisation administrative écologique en France pour le futur. Et on en a une quantité d'exemples, évidemment, en tête de l'intérêt que ça pourrait représenter. Enfin, un autre dernier élément de régime, finalement, vous voyez, les procédures, les éléments de gouvernance sont assez pauvres dans cet article, mais on en a quand même, puisque ça se termine par l'action citoyenne. Je l'ai intitulé action citoyenne, mais en fait, ça n'est pas tout à fait exact, hein, comme on va le voir. L'article se termine exactement d'ailleurs comme pour la loi relative à Marménor sur une action citoyenne Il y a peu de réflexion en France et on connaît mal l'ensemble de ces régimes d'action citoyenne qui sont devenus très répandus en Amérique latine, aux États-Unis aussi et en Espagne. En général, donc, c'est la qualité de citoyen, mais on voit bien ici que ce n'est pas la qualité de citoyen puisque c'est attaché à la personne. Toute personne peut exiger le respect des devoirs constitutionnels de garde des biens communs naturels. Donc c'est vraiment là, voilà, attaché à toute personne, ce qui est évidemment l'action citoyenne, c'est très important puisque le problème essentiel du droit de l'environnement, c'est l'inaction de l'État, l'inaction de l'administration. Et là, l'action citoyenne, elle est très, très importante et très intéressante en ce qu'elle permet de pallier à ce problème, à cet écueil. Donc, en conclusion, on voit bien, il s'agit d'un projet, d'un très, très beau projet, et on voit bien à quoi sert ici la notion de commun. Le projet chilien, à mon sens, est une continuité des intuitions du projet italien. Même si le projet italien est tout à fait différent puisqu'il est basé véritablement sur la protection des droits subjectifs de façon cohérente avec le système public italien qui est entièrement basé sur la protection des droits subjectifs, le recours administratif, le recours contentieux, pardon, est fondé sur l'intérêt, sur la protection de l'intérêt légitime. Donc, ça n'est pas totalement le projet italien, mais tout de même, on voit le lien démocratie, bien commun, et surtout l'idée qui était présente dans le projet Rodotà, c'est que c'était un projet qui transcende les propriétés publiques et privées, puisque c'est. Et ici aussi, le commun sert à transcender les propriétés. Cependant, la notion de commun, et c'est à mon sens l'écueil fondamental ici, c'est qu'il n'y a pas de communauté identifiée au sens ostromien, pas de réflexion sur la communauté. Les aspects de gouvernance sont limités, et l'État est malgré tout toujours au centre de la gouvernance. Et c'est ce qui me semble certainement constituer l'écueil essentiel de ce beau rêve qu'a constitué cet article sur les biens communs naturels du projet de constitution. Merci beaucoup.